à tous. La grande table à l'heure européenne toute cette semaine derrière le hashtag Votre Europe. Dans la deuxième partie de la grande table, l'Europe est-elle une idée défunte? On en parlera avec notre invité, le philosophe Régis Debray, à l'occasion de la sortie de son court essai L'Europe fantôme dans la collection Tract chez Gallimard et d'un colloque qu'il a co-organisé demain, Quelle Europe des intellectuels de Paul Valéry à nos jours. Le colloque aura lieu à la Sorbonne. Mais d'abord, vous avez dit abstrait, danseuse et chorégraphe, elle mêle écriture chorégraphique et recherche fondamentale depuis presque 40 ans, un long et beau trajet chorégraphique avec sa compagnie Rosas, fondatrice de l'une des plus grandes écoles de danse à Bruxelles, l'école Parts en 95. Anne-Thérèse de Kersmaeker donnera ce soir à 18h30 une grande conférence au Collège de France avec l'Opéra de Paris, chorégraphiée Bach, incarnée, une abstraction. Elle est pour l'heure notre invitée, à écouter tout de suite sur France Culture.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bach est un compositeur qui l'accompagne depuis longtemps, depuis les années 80, et son solo Violin Phase, composé par Steve Reich à New York. De Toccata à sa partita numéro 2 jusqu'à ses suites pour violoncelle, elle s'est attelée récemment à chorégraphier ses concertos brandebourgeois, création présentée le mois dernier au Palais Garnier. Bonjour Anne-Thérèse de Kersmaeker.
Bonjour.
Que véhicule la musique de Bach, là, en réentendant ces concertos brandebourgeois que vous avez travaillés, épluchés? Qu'est-ce que ça vous transporte où, immédiatement?
Effectivement, c'est la cinquième fois que je travaille avec la musique de Bach. Et pour moi, Bach est unicum, prend une place unique dans l'histoire de la musique occidentale. Bach, c'est la clarté, c'est l'architecture en mouvement, c'est en même temps une abstraction incarnée, mais en même temps, c'est, je crois que c'est plein de, c'est toujours ancré dans la chair. Je crois qu'en tant qu'être humain, nous reconnaissons toute une gamme d'émotions. C'est la rhétorique, c'est un mouvement qui, dans le cas de concertos brandebourgeois, c'est un mouvement qui va vers l'avant, c'est une jubilation. Et pour moi, c'est toujours une invitation à danser.
Alors justement, le titre de la grande conférence que vous donnerez ce soir au Collège de France avec l'Opéra de Paris, puisqu'elle vient fermer cette conférence, un cycle que vous avez entamé avec notre institution parisienne, incarner une abstraction, comment faire, c'est-à-dire comment passer du geste musical au geste dansé. En ouverture, on y retrouve la reprise de votre pas un peu militaire, cet art de la marche que vous avez défini, comme je marche, je danse, my walking is my dancing. Vous avez pensé ensuite, j'imagine, le lien entre les six concertos de Bach. Comment réussir à trouver une unité à ces moments-là sur la scène?
Oui, je crois que ce soir, quand je vais donner cette conférence, quelque part, ça a été une invitation, ça m'a poussé à quelque part articuler une réflexion sur 40 ans de parcours. Je suis autodidacte en tant que chorégraphe. Et au cours de ces 40 années, à plusieurs reprises, lors d'interviews, on m'a posé la question, chorégraphier, c'est quoi? Est-ce que vous pourriez donner une définition de ce que c'est chorégraphier? Et puis, à l'occasion de cette conférence, j'ai essayé d'ordonner 5 définitions possibles de ce que c'est pour moi chorégraphier. Et puis ensuite, de quelque part, articuler qui sont mes partenaires. Chorégraphier, ça peut être incarner une abstraction. C'est organiser des mouvements dans le temps et dans l'espace. C'est défier la gravité. C'est sauter et tourner. C'est peut-être la définition, la dernière, la plus grande, éloquente. C'est quelque part célébrer notre humanité. Et mes partenaires sont la musique, les danseurs et la nature. Voilà, ça c'est le compte-rendu du programme ce soir. C'est quelque part le compte-rendu de 40 ans de métier.
De votre parcours, Bach n'a pas composé de musique de ballet. Lui s'intéressait néanmoins pour vous à la danse, au corps.
Oui, tout à fait. Je veux dire, Bach n'a pas écrit des suites de danse. Mais d'une part, dans beaucoup de sa musique, dans les partitas, mais aussi dans les suites pour violoncelle, mais puis même dans, par exemple, de Matthäus Passy, la Passion
Saint-Mathieu,
selon Saint-Mathieu. Même là, il y a des menuets, des giques, des sarabandes, des allemandes. Mais comme je disais avant, même dans les musiques de Bach, où il n'y a pas une danse, pre-classical dance, une danse pré-classique proprement dite, le mouvement est toujours présent. C'est effectivement une architecture extrêmement construite, extrêmement composée, qui, comme je disais, qui est toujours... Bach, c'est la clarté dans les grandes formes et dans le détail, mais elle est toujours pleine de mouvement, pleine de mouvement.
C'est intéressant parce que là, c'est la danseuse et chorégraphe qui parle de passer peut-être de l'autre côté du miroir et d'entendre la parole d'une musicienne. Pour jouer du Bach, il faut attraper le mouvement avec tout son corps. Témoignage de la violoncelliste Sonia Wider-Atherton.
Bach, c'est physique, c'est une danse qu'on sent, où vraiment le corps est impliqué. Si tout dans le corps n'est pas en harmonie avec le mouvement de qu'on est en train de jouer, il y a des choses qui se bloquent plus que dans n'importe quelle autre œuvre. C'est une chose qui me fascine. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai attendu quand même pas mal pour vraiment me lancer comme ça à cœur ouvert dans Bach. C'est parce que je n'arrivais pas à trouver cette harmonie-là. Et ça fonctionne quand ce mouvement est partagé par chaque millimètre du corps. Ça va des pieds jusqu'aux bras, en passant par la tête, et il y a quelque chose qui doit vraiment se... Je sais pas, je vois les mains de Giacometti qui est en train de malaxer le visage, qui travaille et travaille en disant, mais si je trouve, bah, la sculpture est finie, donc je continue. Il y a une espèce de chose qu'on a l'impression qu'il y a ce mouvement à l'infini. Et ben, dans Bach, parfois, quand on l'attrape, celui-là, c'est ce mouvement-là qui va avec votre respiration, il y a quelque chose de juste. Et alors, c'est vraiment une danse. Et alors, c'est vraiment un corps qui est en train de danser devant vous, se déployer devant vous.
Vous l'entendez, cette empreinte de la main dans la musique de Bach, ce mouvement du corps qui aurait infusé ces partitions, Anne-Thérèse Kersmaeker.
Oui, tout à fait. Comment dire? Le musicien, aussi bien que le danseur, leur point de départ, leur instrument principal, c'est le corps. Et le corps humain, prendre le corps comme instrument pour créer une œuvre, le corps, c'est cette maison dans laquelle nous levons tous les jours, c'est ce qui est le plus individuel, le plus universel. Quand on danse, nous faisons appel à notre corps dans son aspect mécanique, nos muscles, notre colonne vertébrale, mais aussi son aspect sensuel, son aspect émotionnel, parce que je crois qu'un corps est toujours capable, c'est une mémoire de toutes les émotions possibles, de nos propres vies et de nos vies, de nos parents, nos aïeux. C'est un corps social, toujours. Et un corps est toujours un corps qui porte quelque part une pensée, Donc il y a toujours une dimension intellectuelle et inévitablement, puisque c'est l'instrument le plus naturel, ce ne peut qu'être aussi un corps spirituel.
Si j'en reviens à Bach, vous avez dit universel. Bach est-il pour autant pour vous, aujourd'hui encore, contemporain ?
Comment dire ? Pour moi, c'est une évidence. Justement, à cause de cette dualité, mais d'une part, cette abstraction, et d'autre part, l'incarnation de cette abstraction, et qu'est-ce qui est de plus contemporain que le corps ? Je crois que pour moi aussi, comparé aux arts visuels, même à la littérature, pour moi, la danse est peut-être l'art le plus contemporain. Et donc, je crois que quand musique et danse se trouvent, spécialement dans la musique de Bach, où l'architecture est vraiment une réflexion de quelque chose qui nous dépasse, c'est extrêmement concret. Et c'est aussi en même temps, ça appartient à un monde qui nous dépasse.
Sa musique, à Bach, est très riche, elle est très complexe. Comment traduire un geste musical sans le réduire ? Vous êtes allé puiser votre inspiration, probablement, directement dans ses partitions. C'est en tout cas ce qu'on voit dans un documentaire qui vous était consacré, Mitten. On vous voit là au travail avec le violoncelliste français Jean-Guyen Queyras, travaillant directement dans la partition des 6 suites pour violoncelle pour la création de Mitten wir im Leben, titre emprunté au chant de Luther, interprété par 5 danseurs, dont vous, extrait.
2 en la mineur.
Ok.
Ensuite, à partir d'ici, 2 de sol majeur.
Ouais.
Et puis, do majeur à partir de là.
Ah oui.
Voilà.
Toujours en sol ou...
Ah non, là, tu sais, on est...
Non, non, attention, en do,
Marie, c'est très important. Hein. Quand je te dis pédale de sol...
Oui, on n'est pas en sol.
On n'est pas en sol, hein.
Oui.
On est en do majeur et on n'y bouge plus.
Ouais, c'est
oui.
Ça.
Et le sol, c'est la dominante. Oui, donc, comme il fait toujours... Il nous pose sur cette pédale de sol, 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 la, 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 sol, fa, mi, sol, do. Pour
d'accord.
Pouvoir faire sa cadence.
It goes till here, hein? Ça va jusqu'ici, non?
Ouais. À la basse.
On voit le travail que vous avez mené ensemble, Anne-Thérèse Adkersmaeker, dans, sur les partitions directement du compositeur. Vous avez réussi à travers ce décryptage à rester fidèle, c'était ça l'envie, à la structure rythmique aussi des œuvres, à rechercher peut-être dans le texte quelque chose de dépouillé, qui soit aussi en accord avec les lignes mélodiques que Bach avait développées. Pour ça, il faut aller chercher dans la partition.
Oui. Vous savez que moi, depuis 40 ans, j'ai toujours dit, mon premier partenaire, c'est la musique. La musique est mon maître, c'est là que j'ai été voler, piquer mes idées. Donc, il y a en fait toujours cette histoire d'amour entre musique et danse pour moi, mais en fait, je crois qu'il est important de dire, c'est plutôt un ménage à trois. C'est la danse, la musique, et puis l'écriture, la partition. Parce que c'est en décortiquant, en étudiant, en analysant une partition, qu'on voit des choses... Il y a des choses qu'on voit à l'écoute, mais il y a aussi plein de choses qu'on ne découvre seulement que quand on analyse une partition. J'ai toujours été jalouse de la musique classique à cause de ce langage, pas un langage codé, mais le fait qu'il y a une écriture, ce qui nous manque quelque part dans la danse.
Mais
d'avoir
vous avez,
une note, d'avoir
ça s'invente,
une note,
ouais.
D'avoir une notation qui était aussi précise et articulée que les partitions musicales. Et donc, grâce au fait que j'ai été entourée de musiciens fantastiques qui m'ont accompagnée à analyser ces partitions, ça m'a permis à non seulement développer un vocabulaire, un grammaire, un vrai langage chorégraphique, mais aussi de toute façon de comment varier, transformer ce vocabulaire, tous ces procédés musicaux, des rétrogrades, des canons, des variations, des modulations, toutes ces choses qui sont propres aux techniques musicales d'un compositeur et qui m'ont servi pour développer ce vocabulaire et un vrai langage, quoi.
Sur cette importance de la musique dans votre vie, elle a toujours occupé une place centrale, vous le rappeliez, dans vos créations, elle vous a toujours accompagné dans vos chorégraphies. Mais dans quelle mesure la musique et tous les répertoires, parce que vous passez du baroque à la musique minimaliste jusqu'à Bach qu'on évoquait.
Sauf les romantiques.
Sauf les romantiques. Pourquoi ils vous déplaisent?
Non, je crois que c'est parce que ça. Je crois que la danse, quelque part, est déjà en soi un élan vers le haut et vers le rêve. Et puis, je crois que aussi parce que c'est ma nature, je suis, au contraire que ce que tout le monde pourrait penser, je suis, je crois, profondément une ballerine, et donc une ballerine.
C'est romantique par essence.
C'est romantique. Mais je crois aussi qu'elle est opposites attract, comment on dit ça en
français.
Les contraires s'attirent. Donc, vis-à-vis de cet élan extrêmement, cette nature extrêmement romantique et, comment dire, déchaînée, je suis extrêmement attirée et fascinée par tout ce qui est rationnel, objectif, impersonnel, qui analytique, qui m'aide quelque part à structurer, à développer des vraies stratégies dans ce mariage entre musique et danse.
J'allais vous demander dans quelle mesure la musique avait aussi influencé votre manière à vous, Anne-Thérèse Kersmaeker, d'habiter le monde. Peut-être que la réponse est dans ce mot, elle vous a aidé à vous structurer, à trouver une place.
Oui, à structurer le sensible, oui, tout à fait.
L'auteur de Notes sur la musique et la danse en 73, le compositeur Steve Reich, que vous connaissez bien, a souvent loué votre virtuosité, votre sens du mouvement musical. Il raconte votre rencontre.
Anna-Theresa m'a écrit une lettre que je n'arrive pas à retrouver. Je crois que c'est sur Bartok. Ce serait horrible de l'avoir perdue. Au début des années 80. Elle me dit qu'elle va faire interpréter certaines de mes œuvres par des danseurs et elle veut savoir si elle pouvait demander à mes musiciens de les accompagner. Donc je l'ai demandé à Nori Tillis et Edmund Neyman, qui n'est plus avec nous. Donc je leur dis, voici leur nom. Voilà, vous pouvez leur écrire. Je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Cette femme avait le nom le plus long que j'ai jamais vu. Bon, ils ont joué avec elle, ils ont joué phase. Je l'ai pas vu. Et quand ils sont rentrés, ils m'ont dit, il faut que tu vois le travail de cette femme. Elle est vraiment bonne. Vraiment. Et il m'a fallu 16 ans avant d'aller à la Kitchen à New York. J'ai vu d'autres œuvres d'elle, d'ailleurs. J'en ai vu une où elle a travaillé sur Wagner et Berg, des œuvres qu'elle a faites avec Thierry Demey.
Rosas Danced Rosas,
je me suis dit, wow, ça c'est une belle œuvre sexy. Mais je n'ai vu Phase que 16 ans plus tard et j'étais émerveillé. Phase est tout simplement un chef-d'œuvre.
Il y a beaucoup de collaborations comme ça, pour vous, Anne-Thérèse Kersmaeker, qui ont mis du temps à s'installer, de rencontres qui devaient arriver, peut-être comme celles que vous avez eues avec Bach, d'ailleurs, qui ont pris leur temps et qui sont arrivées ensuite à point nommé.
Il est vrai qu'au début de mon parcours, c'est la musique de Steve Reich. Steve Reich était extrêmement important. Béla Bartok aussi, par cette musique qui est extrêmement rythmique, qui est ancrée dans toute la musique populaire du Balkan. Et après, effectivement, en fait, j'ai eu la chance depuis le début d'être, dès le départ, entourée de musiciens. de musiciens qui m'ont inspiré dans leur pratique, dans leurs idées de la musique, Philippe Herwig, Georges Eli Octors, les musiciens d'Ictus, Jean-Guyen Carras, Amandine Beyer, Alain Franco, Björn Schmelzer, ce sont tous des gens qui j'aime être beaucoup parmi ces gens. Ces gens m'ont quelque part aidé à employer mon instinct, mon intuition et mon intelligence pour développer une écriture et pour développer une pratique qui se fait comme deuxième partenaire extrêmement important, les danseurs. Pendant beaucoup d'années, je n'ai en fait que parlé de la musique et quelque part, c'était, je crois, pas tout à fait correct ou injuste, parce que l'autre partenaire qui, depuis le tout début, a été mon partenaire principal, ce sont les danseurs qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent toujours et qui sont mes partenaires dans la recherche à chaque fois de processus créatifs socialement extrêmement intensifs et où tout la production du matériel, le fait d'écrire un vocabulaire qui est après être ordonné dans l'espace et dans le temps, la production de ce matériel se fait toujours avec les gens. Donc Rosas Danse Rosas est devenu ce que c'est à cause de très précis de ces personnes-là, Michel Andemé, Adriana Boriel et Fumio Okeda. S'ils avaient été des autres personnes, le spectacle aurait été différent. Je prends les décisions initiales et les décisions finales, mais comparé aux autres arts, comme par exemple la littérature ou les arts visuels, la danse est un art extrêmement social, où le processus créatif est partagé, est basé sur une empathie, on dit ça,
hein? Empathie ou
une empathie,
une complicité aussi,
oui, ouais. Et une complicité qui va plus loin que l'esprit de groupe ou une notion d'atelier ou c'est vraiment on travaille avec le corps et donc avec tous les codes qui sont inscrits dans le corps.
Alors il y a ces rencontres que vous avez pu faire, il y a les danseurs de la compagnie Rosas qui vous entourent et il y a aussi cette école que vous avez créée parce que la transmission est aussi très importante pour vous, redonner ce qu'on vous a transmis. Cette école Parts, elle a été créée à Bruxelles en 95. Je vous propose juste une dernière échappée belle entre les murs de cette école, présentée par Théo Van Rompuy, qui est le directeur adjoint, et la voix de jeunes danseurs, trois d'entre eux.
L'école a voulu être, dès le début, une école qui faisait plus que la danse. C'est vraiment une école de danse, Parts, mais la formation se lie au théâtre, à la musique, et il y a une forte présence de la pensée, de la théorie.
On déconstruit le langage, on nous fait regarder dans différentes directions et réfléchir à la façon dont nous bougeons. Réfléchir, c'est vraiment ce qui compte ici.
Nous considérons le danseur comme un artiste, et cela ne dépend pas du fait d'être un auteur ou un créateur. Nous partons du principe que le danseur que nous voulons former est quelqu'un qui a une voix, un point de vue, et une forte influence sur le processus créatif, quel que soit son rôle.
C'est une formation qui pousse nos désirs à prendre forme plutôt que de nous essayer de nous former dans une case qui est celle définie par la société ou par le contexte d'être danseur en Europe.
Là, j'aimerais, Anne-Thérèse Adkersmaeker, qu'on s'arrête sur ces mots. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, le contexte d'être danseur en Europe? Est-ce qu'il y a aujourd'hui une danse européenne? Est-ce qu'il y a aujourd'hui vraiment deux écoles? Une américaine, celle de Merce Cunningham, Trisha Brown, Lucinda Childs, Caroline Carlson, William Forsan, John Neumeyer, et une européenne qui irait de Béjart à Pina Bausch et Jiri Kilian, à la non-danse aussi, façon Jérôme Bell. Est-ce qu'il y a deux écoles de danse pour vous aujourd'hui?
Non, je ne dirais pas qu'il y a deux écoles de danse aujourd'hui. La danse a été pour moi depuis toujours. Hein? On peut se poser la question, est-ce que les étoiles dansent, est-ce que les animaux dansent? Mais je crois que les hommes ont toujours De la même façon qu'ils ont toujours fait de la musique, au grand moment de leur vie, je crois que la danse a existé depuis toujours. Et puis effectivement, comme vous dites, il y a le monde est grand, il y a différentes cultures, et donc il y a beaucoup de danses différentes. Ce serait une énorme réduction de les réduire à deux écoles, complètement injuste à ces danses magnifiques et ces danses ethniques, à ces danses, à toutes ces écoles depuis des siècles et des siècles. D'ailleurs, quand je dis pour moi danser, c'est célébrer, c'est l'humanité, c'est exactement ce que je veux dire. C'est quelque chose qu'on partage de partout. Partout depuis toujours dans le monde entier.
Vous avez réfléchi à la question européenne, je crois que ça a été aussi sur une invitation de Bernard Foucault de Aix-en-Provence, du festival. Aujourd'hui, on est dans un moment particulier pour vous.
Oui, en tout Europe. À fait. Oui, Bernard Foucault m'a appelé à propos d'un groupe de gens qui s'inquiètent effectivement par rapport à comment l'Europe se porte pour le moment. Et dans la perspective des prochaines élections, par la conscience qu'en fait que l'Europe ne fonctionne pas comme beaucoup d'Européens le souhaitent, qu'il y a une montée d'extrémisme explicite, et qu'on se pose aussi quelle est la place de la culture, quelle est la place de la culture là-dedans. Donc pour le moment, on approche une série d'élections décisives dans l'histoire du continent. Et en Belgique et aux Pays-Bas, il y a des élections en même temps qui vont ensemble avec... on va quelque part décider le destin de notre pays. Donc, à tout point de vue, c'est un moment crucial dans notre démocratie continentale. Je crois que... l'acte d'élire ces personnes qui fixent le plan de route pour notre continent, en gros... dans les années qui viennent. Et dans ce texte, j'écris qu'un plan de route qui implique pas seulement les questions domestiques, mais aussi la justice fiscale en Union européenne, l'inégalité sociale, et surtout, avant tout pour moi, c'est une chose qui m'est très très chère, c'est notre approche à un des défis les plus intimidants de notre époque, le réchauffement climatique. Ces élections ne sont pas un vote exclusif, ils ne concernent pas seulement un petit groupe d'Européens professionnels. Ces élections offrent une occasion d'expression à ceux qui s'inquiètent sur la fin du mois et à ceux qui s'inquiètent sur la fin du monde. Et aussi à ceux, avant tout à ceux qui voient que ces deux soucis sont guère séparables. Et je crois que pour cela, c'est extrêmement important qu'on, malgré toutes les doutes qu'on a, qu'on va voter pour les élections européennes.
Pour le prochain scrutin. C'était votre plaidoyer européen, Anne Teresa de Kersmaeker. Merci beaucoup d'être venue autour de cette grande table. Je rappelle pour ceux qui passent ou qui sont à Paris que vous serez ce soir en public à 18h30 au Collège de France avec l'Opéra de Paris pour une grande conférence chorégraphiée Bach, incarner une abstraction. Et bientôt, l'année prochaine, avec Ivo Vanoff, qu'on reçoit demain à votre place ici, metteur en scène belge également, sur Broadway pour une chorégraphie mise en scène de West Side Story, votre comédie musicale. Merci beaucoup à vous.